Electo Cunancisto! Por danza di la bambola, por danza di la bambola, este está lleno, culerreto da charmo, culerreto da charmo, pulpeto lemo, al azufro, al azufro, al azufro, al azufro, al menos hija, y parrillos, parrillos. Vai faritos marritos, se volati, se volati, se volati.
Saluton ge amicoi. Mi pensas ke vi fartas bone, ĉar la vetero estas bela kaj la suno brilis la tutan tagon. Mi revenas Hispanion kaj mi vizitis la regionon de Castilla y León, precipe Salamanca, belega urbo tre malnova. Mi racontos al vi venontan London, char hodiau ni acceptas en Odo Radio esperantan amicon Bernard Sarlandi. Saluton, Bernard.
Saluton, Gloria.
Mi estas tre contenta que li consentas visiti nin, char li estas angla instruisto kai esperantisto. Do, mi opinias que nia conversatio estos tre interesa. Salut a tous. Je pense que vous allez bien, car le temps est beau et le soleil a brillé toute la journée. Je reviens d'Espagne, où j'ai visité la région de Castilla y León, principalement Salamanca, qui est une très belle ville, très ancienne. Je vous en parlerai un autre lundi, car aujourd'hui, nous recevons à Odo Radio un ami espérantiste, Bernard Sarlandi. Je suis très contente qu'il ait accepté de venir nous voir, car Bernard est professeur d'anglais et espérantiste. Donc, je pense que notre conversation sera des plus intéressantes. Alors, Bernard, lorsque j'ai l'habitude, lorsque des amis me font le plaisir de me rendre visite ici à Odo Radio, de commencer les entretiens par la même question que je ne vais pas manquer de te poser. Comment as-tu connu l'espéranto et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir l'apprendre?
Oh, eh bien, c'est une vieille histoire. J'étais petit. Mon père, qui n'est pas espérantiste, mais on discutait une fois de communication, il dit, mais il y a quelque chose pour l'avenir, c'est l'espéranto. Bon, et puis ça s'était arrêté là, parce qu'il ne connaissait pas bien la langue, à part le mot. Mais c'était dans un petit creux de ma mémoire, ça c'était au milieu des années 50. Au début des années 70, j'ai rencontrer un apatride, c'est-à-dire quelqu'un sans nationalité. Et il m'a dit qu'il était citoyen du monde et il m'a montré sa carte de citoyen du monde. Alors là, ça a fait tilt et je me suis dit, mais moi aussi, je suis citoyen du monde. Et j'ai demandé ma carte de citoyen du monde et j'ai demandé qu'elle soit écrite en espéranto, langue que je n'avais jamais vue écrite encore.
Et que tu ne parlais pas.
Et que je ne parlais pas. Mais quand même, j'avais cette carte, comme ça, qui s'appelle Legitime Carto.
Oui, tu peux continuer.
Oui. Donc, ensuite, je suis parti au Ghana, VSNA, parce que c'était mieux que d'aller dans une caserne. Mm-hmm. C'était volontaire au service national actif. Et je me suis dit, je vais apprendre l'espéranto. Et alors, j'ai acheté un livre qui a toujours cours aussi, alors là nous étions au milieu des années 70, et qui s'appelle Le Nouveau Cours Rationnel d'Espéranto.
C'était dans quelle année ça à peu près?
C'était en 1976.
Oui.
J'ai commencé, alors je suis allé jusqu'à la septième leçon.
Tout seul alors?
Tout seul. Comme un grand. Mais je m'inquiétais un petit peu, donc moi qui étais habitué à parler l'anglais, effectivement, de ne pas savoir la prononciation. Et comme je suis un très mauvais autodidacte, je me suis arrêté au bout de la septième leçon. Et puis, donc alors à la fin des années 70, où nous sommes arrivés sur l'Ormont avec mon épouse, et je crois que c'était en 1981, à la rentrée 81, sur le journal, j'ai vu une petite annonce qui émanait d'un certain Léo Robert avec son numéro de téléphone et qui disait des cours d'espéranto vont commencer à ce nom tel jour, à telle heure. Alors j'ai bien entendu tout de suite appelé. Et une des premières questions de Léo a été est-ce que vous êtes jeune? Oh, j'ai dit, j'ai la trentaine, je ne suis pas trop cool. Oh, mais vous êtes pas jeune, alors m'a-t-il dit au téléphone. Et puis bon, ben voilà, donc 81, c'était une année charnière aussi, hein, y compris en France, de beaucoup de points de vue. Mais en 81, ben, je m'en souviendrai, c'est l'année à laquelle j'ai commencé à apprendre l'espéranto. Et au bout de 2 ans, je suis parti en Polynésie, où je n'ai pas trouvé les moyens, mais quand même, chaque année, je tenais à écrire une carte à mon professeur d'espéranto, en espéranto, et puis voilà. Et puis, en rentrant de Polynésie, ben, j'y ai replongé de plus belle.
Et en Polynésie, tu es parti avec le cours rationnel sous le bras?
Absolument, oui, absolument, oui.
Et tu as continué donc à lire et à essayer de parler tout seul. Ton épouse s'y est mise aussi?
Voilà, ou un petit peu. Mais pas en Polynésie, au retour. Là.
Oui, parce que c'est plus facile quand on est deux, effectivement. Oui, toi qui maîtrisais déjà une langue étrangère, l'anglais, tu n'étais pas convaincu qu'elle pouvait servir de langue de communication?
Mais si, c'est parce que c'était ce qu'on m'avait toujours dit. C'est bon, voilà, en rentrant de Polynésie, nous sommes allés, pendant les vacances d'été, l'année suivante, en Scandinavie. Et là, tout le monde avait dit, en Scandinavie, tout le monde est bilingue, tout le monde parle anglais. Eh bien, j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas vrai. Je rentrais dans un magasin au fin fond de la Norvège ou de la Suède, et je me mettais à parler anglais, on me regardait avec un air bizarre. Et en me faisant comprendre que ce n'était pas la langue du pays, et on ne voyait pas pourquoi j'utilisais ça. Alors après, ben, chaque fois que nous arrivions dans une ville en Scandinavie, j'allais à l'office du tourisme, et systématiquement, j'essayais de parler français. Et là, soit on faisait l'effort de me répondre en français, soit on s'excusait, et donc là, en fonction du niveau d'anglais, je m'adaptais au niveau d'anglais de la personne qui était en face de moi. Mais tout le monde n'était pas bilingue en Scandinavie, comme en France. Là, je m'en veux aussi. En France, par exemple, quelqu'un me parle en anglais dans la rue, et bien automatiquement, je lui réponds en anglais. Après, je me dis, mais bon sang, tu ne devrais pas, parce que c'est... Toi, quand tu vas dans un pays anglophone, il ne te viendrait pas à l'idée de t'adresser aux autochtones en français.
Bien sûr.
Et donc, mais là, bon, ben, c'est un réflexe quand même, bon, ben, c'est un réflexe conditionné. Mais j'ai une anecdote sur la Scandinavie. On était près de Stockholm et à un moment, je vois un garçon et puis deux jeunes femmes. Alors, ils étaient jaunes, donc visiblement, ce n'étaient pas des gens du pays. Et en passant devant eux, ils parlaient dans une langue que je connaissais, c'était l'espéranto. Et alors là, c'était curieux parce qu'alors lui, c'était un étudiant chinois et qui accueillait deux étudiantes japonaises qui faisaient un tour d'Europe comme ça. Et entre un chinois et deux japonaises en Suède, eh ben, le moyen le plus simple pour communiquer, c'était l'espéranto.
C'était l'espéranto.
Et d'ailleurs, on était dans un immeuble à étage, on est tous rentrés ensemble, ma famille et puis les trois personnes, et on était en train de parler, et on parlait tellement qu'on en avait oublié d'appuyer sur le bouton pour faire descendre l'ascenseur.
Tu as été encore plus convaincu de l'utilité de cette langue.
Absolument, et d'autant plus que la première question qui m'a été posée par ce chinois, donc c'est, est-ce que tu voyages au moyen de l'espéranto? Oui. Et je dois dire que ça, on ne m'a jamais demandé si je voyageais au moyen de l'anglais.
Au moyen de l'anglais, oui. Et je pense savoir que tu es un défenseur également de l'occitan.
Absolument, hein? Oui.
Alors, quel parallèle est-ce que tu peux faire entre une langue régionale, quelle qu'elle soit, mm-hmm. et l'espéranto? Parce qu'on accuse souvent l'espéranto de vouloir nuire aux langues régionales. Alors qu'il me semble, on va voir ce que tu vas répondre, mais il me semble que c'est le contraire.
Ben, bien sûr. Donc, je me sens profondément citoyen du monde, je l'ai dit, et bien entendu profondément européen. Mais l'Europe, ça ne peut pas être l'anglais qu'on appelle maintenant, j'ai vu, le Konglish. c'est-à-dire un anglais déprécié que les anglais, ce qu'on appelle les native speakers, ne comprennent pas. Et moi je pense que pour se sentir citoyen du monde aussi, il faut déjà être enraciné dans sa terre. Et l'enracinement passe aussi par la langue du pays. Et moi, je vois, j'ai été désolé à partir du moment où j'étais le premier de la famille à faire des études, que mes grands-parents cessent de me parler la langue, leur langue maternelle, qui était l'occitan, et moi qui étais bilingue français-occitan jusqu'à 12 ans, ben, petit à petit, ça a disparu. Et l'occitan, ben, maintenant, ça vient après l'anglais et même après l'espéranto. Et là, c'est pour ça, moi... Apprendre l'occitan, ça devrait se faire dès l'école maternelle. Je suis tout à fait en faveur des calendrettes et puis de l'enseignement par immersion. Et l'espéranto, après, pourrait se développer au primaire. Et comme ça, on pourrait choisir d'apprendre une langue au niveau du collège pour le plaisir de la langue et pas pour... une prétendue communication qui a bien peu de chances de se réaliser. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on apprend ? Anglais, espagnol, point. Essayez un peu d'apprendre le portugais, c'est pas évident hein, de pouvoir apprendre le portugais. Et pourtant, sur une radio concurrente, France Inter, par exemple, eh ben, écoutez, le portugais est en bonne place, notamment dans la chanson.
Bien sûr, bien sûr. La Hongrie a déclaré l'espéranto depuis longtemps comme langue culturelle et il y a eu 17 000 personnes qui ont eu un diplôme d'État l'an dernier en espéranto. Et que je sache, la Hongrie a également des langues régionales.
Oui, oui.
On va faire une petite pause maintenant en écoutant un disque que tu as choisi, les Fabulous Troubadours
de Toulouse, groupe occitan.
Un groupe occitan qui chante Bon Anyaron.
Bon Annado.
Buonanotte patio mia, buonanotte la idar, buonanotte la gheavar, buonanotte fiancio in niai, cai al fatta l'ulogiai, al proximai e ci lontanai, buonanotte Toulouse noi, ni desiras buonanotte alla famiglia di Anaibar, ni desiras buonanotte alla tuta cunurbana, buonanotte al ciu amic, fammi al ciu mal amic. Kiel al ciu coronat, kiel al ciu neconat, buonanjaro al ciu han, de Corsica e de Montalban, de Marseille cae la Lanet, de Bordoso cae de Set, buonanjaro al ciu Parisan. Ni desiras bon anyaro nun al ciu de la nazio, ni desiras bon anyaro al popolo de Francio. Bon anyaro en Algerio, bon anyaro en Kabilio, bon anyaro en Jugoslavio, esse ne plu dirigastio. Bon anyaro en Tororui, canta tutta la Cruzui. Bon anyaro en Chupapu, ciu hauskai Perugu, aia cutta al Molucan, al Galaco aia van. Mongola di Nuit, Bengalano cae Mikit, Aju Frizzo al Manchur, al Brusho al Rainu, Ciu Mango e Venki, Ciu Balubo al Ciucci,
Amaro al Tigre,
Rombo cae Trame,
Ciu Kindo al Tiran,
Agumbino al Kaisan,
Ciu Lato al Miran,
Al Tamulo Kashmira,
Uraniaro Ciu Aliok,
Ecce ni desiras bon anyaron al popolo de la mondo, ni desiras bon anyaron en mon familia rondo.
Bon anyaron al enamic, cun felic au man felic,
bon anyaron jus en chansul,
vete mul cae luze mul.
Bon anyaron al brigadist,
al fascistur cae gardist,
cae al cius en heimul,
cae al cius en laborul,
cae al cius concernat,
li reconosci en templat.
Are ciu di conasi
Sen din din iar monosi
Buna niar ciu farmin Labor ciu ca metimul
Buna niar la ciu noș
Buna niar la ciu noș
Buna niar la ciu grec
Buna niar sur perdec
Buna niar al ciu ain Mal buna niar al neniu ain
Buna niar al ciu teran Cai se exista ciu martan
Mi desiras buna niar Nuna ciu bezonegul Mi desiras buna niar
Nuna al ciu sau tempul
Buna niar al univers
Buna niar
Buna niar
Écoutez Eau de Radio, Esperanto Vivas. Nous continuons notre conversation avec Bernard Sarlandi autour de l'Europe, autour de l'anglais, autour de l'Occitan. Moi, j'ai envie de te dire que l'Europe se construit peu à peu, n'est-ce pas, 25 pays depuis le 1er mai et 21 langues différentes. On a tous un peu l'impression que les gouvernements ne semblent pas conscients de l'énorme problème que constitue la communication entre tous ces peuples et imposent un peu l'anglais d'une façon pas trop franche, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a derrière cela une hégémonie cachée? Et si oui, laquelle?
La réponse est dans la question quasiment. Mais un gros problème pour nous qui sommes quand même assez près de nos sous, hein, moi je suis comme tout le monde. Lorsqu'il y avait 15 pays, un mot traduit coûtait 1 euro. Imaginez un peu avec 25 pays et les 21 langues, ça va être encore bien plus cher. Mais bien sûr qu'il y a une idéologie, parce que ce n'est pas la langue de... c'est pas de Queen's English qu'on veut faire passer, hein, c'est la langue des Américains. Et donc, alors, quelle sera la puissance de l'Europe quand elle se mettra à genoux devant la langue de bouche. L'an dernier, je suis parti faire un stage dans le cadre d'un programme européen en Sardaigne. Donc en Sardaigne, on parle sarde et italien. Et la langue de travail était censée être l'anglais. Il se trouve que la plupart des organisateurs, donc sardes, connaissaient le français mais ne connaissaient pas l'anglais et que parmi les stagiaires nous étions 40% de francophones ou francophiles puisqu'il y avait des Allemands, des Autrichiens qui parlaient français aussi bien voire mieux que l'anglais. Mais si la langue de travail n'avait pas été l'anglais, ben, il n'y aurait pas eu de subvention européenne pour que le stage ait pu avoir lieu.
Par conséquent, l'anglais était imposé.
Absolument, oui. Même pour des gens qui ne le souhaitaient pas.
Peut-être que le film de Michael Moore va changer tout ça, en ce qui concerne Bush, n'est-ce pas?
Espérable,
comprenable, oui. J'ai assisté il y a quelques semaines de cela, avec deux autres membres d'Espéranto Gironde, dont Joël Lajus, notre président, à une conférence dans le cadre du Forum social. Et le thème était justement... quel avenir pour l'Europe? Et j'ai entendu des syndicalistes et des membres de partis de gauche dire que pour eux, l'interprétariat était la solution, même s'il fallait beaucoup d'interprètes. Et justement, ça rejoint ce que tu viens de dire au niveau du coût de l'interprétariat. Ça me semble un peu insensé comme raisonnement.
Mais tout à fait. Mais là aussi, c'est une question politique. Moi, je me suis réjoui le 10 mai 81. Je me suis dit, ça y est... on a gagné, la raison va enfin triompher, puisqu'il y a quand même eu de nombreux projets de loi déposés par les députés ou les sénateurs socialistes en faveur de l'espéranto. Il ne faut pas oublier que le président actuel de la République, lui-même, Jacques Chirac, lorsqu'il était président du Conseil général de Corrèze, a fait voter aussi au Conseil général une motion en faveur de l'espéranto. Nous attendons simplement qu'il mette en pratique... ce qu'ils osent affirmer au moment des élections.
Nous avons reçu un député européen au dernier stage d'espéranto, pas au dernier, l'avant-dernier. Il semblait tout à fait favorable et convaincu d'abord de la qualité de l'espéranto et puis de son utilité. Mais moi, je l'ai vu au Conseil général, quand Joël Lajus a posé une question, monsieur Gilles Savary n'a rien répondu. Et ensuite, il est venu nous saluer en disant « Ah, les espérantistes !» Donc, il a peut-être... je dirais pas peur, mais est-ce qu'il ne craint pas justement que ses idées personnelles prennent le pas sur ses idées politiques ?
Il ne faut pas oublier quand même que l'espéranto a été qualifié de la dangera lingvo, c'est-à-dire parce que ça pouvait permettre aux gens de s'exprimer en dehors des langues nationales, en dehors des gouvernants, de s'exprimer directement. Et ça, effectivement, c'est très dangereux pour les gens qui sont au pouvoir.
Oui, ça l'a été effectivement, puisque les anciens n'avaient pas attendu qu'on leur apprenne l'espéranto, c'est eux qui l'apprenaient en dehors de leurs heures de travail et qui communiquaient entre eux dans toute l'Europe.
D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'espéranto donc, a été persécuté à la fois par Staline et Hitler.
Et Franco et les autres. Il ne faut pas en oublier dans la liste. Parmi tes trois enfants, l'un d'entre eux a un regard favorable envers l'espéranto, puisque le 1er mai, nous avons glissé un CD espérantiste dans une camionnette sympathique qu'il a passée à la radio. Alors, je sais qu'il écoute des disques en espéranto, des groupes du monde entier, mais est-ce qu'il le parle, hein? Et si oui, de quelle façon l'as-tu convaincu?
Il le comprend mieux qu'il ne le parle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'effort de le parler. Mais... je suis convaincu que le jour où il aura envie, il apprendra très rapidement, parce qu'il baigne quand même dans ce milieu-là. Et il a choisi dans son programme de travaux personnels encadrés au lycée de parler de l'espéranto dans le cadre de la communication. Et ça, c'était très bien.
Spontanément.
Absolument. Je ne l'ai pas forcé. Et même si les professeurs le regardaient d'un air... un petit peu dubitatif.
Oui.
Mais je pense qu'il a dû bien s'en sortir quand même.
Oui.
Et puis d'ailleurs, il a fait partie aussi, les trois enfants, et puis mon épouse aussi, nous avons fait partie des premiers pas des compagnons, la troupe théâtrale, musicale de Esperanto Gironde.
Esperanto Gironde, la compagnon. Eh bien, ça tombe très bien, tu vois, nous allons faire une seconde pause musicale avec Jacques Ivar qui va nous chanter Pobre Marteno.
Pesa spato sur la shultro, cacce la lippo mil da cant, cacce la lippo mil da cant, c'è l'anim granda curaggio, iris li porci vidi sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entempo. Per labori sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spati la teron en ciu loc ciu veter. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entemp.
On écouterait Jacques Ivar encore longtemps parce que je trouve qu'il a très très bien traduit Pauvre Martin, mais
dans une traduction d'un Girondin, Marcel Redoulez,
oui, qu'on ne présente plus parce que je passe assez souvent les disques des compagnons. Oui. Bien. Alors revenons à nos moutons. Nous écoutons toujours de radio Esperanto Vivas. Alors concrètement dans le milieu scolaire, puisque tu es en plein dedans, n'est-ce pas, quel pourrait être le rôle des enseignants pour faire changer le regard des parents envers les enfants? Ça me semble important, ça.
Et il faudrait déjà que les enseignants changent le leur et puis arrivent à les convaincre. Dans le collège où je travaille, il y a de la documentation au CDI, au Centre de Documentation et d'Information, sur l'espéranto, de façon que tout le monde puisse lire et se documenter. Je dois dire qu'il n'y a pas de documentation sur le coréen, mais quand on parle d'espéranto, tout le monde dit « qu'est-ce que c'est, ça, on ne peut rien dire ». Mais si on parle du coréen, les gens n'ont pas d'opinion et pourtant ils ne connaissent pas plus le coréen que l'espéranto. Mais l'espéranto, ça peut marcher. Ma sœur et son mari, qui sont instituteurs en Dordogne et qui pratiquent une correspondance et des cours d'espéranto avec l'assentiment donc de leur inspectrice depuis des années. Et c'est un bon moyen propédeutique pour accueillir et pour apprendre les langues après, quelles qu'elles soient.
Oui, tu pourrais en dire deux mots justement sur la valeur propédeutique de cette langue, parce qu'on nous dit souvent que c'est une langue de barbares et c'est un code, etc. Il y a plein de non-sens qui circulent sur l'espéranto.
Ben, c'est-à-dire, comme c'est une langue logique, on est obligé de ne pas faire de faute. Par exemple, un son, une lettre, un son, ça n'existe pas ailleurs. Donc toutes les lettres se prononcent, il y a le rythme qui existe, il n'y a 16 règles de grammaire, seulement aucune exception. Donc ça permet, grâce à cette facilité, d'apprendre à jouer aussi avec différentes langues et peut-être de prendre goût. Il ne faut pas oublier quand même que les plus grands espérantistes ont été des enseignants, voire des agrégés de grammaire, de linguistique, des professeurs de russe au niveau universitaire. Je parle des professeurs d'anglais au niveau universitaire. Donc, ce n'est pas un hasard. Si,
ce ne sont pas de doux rêveurs, non, pas du tout.
Ouais, non. C'est des gens qui sont venus à l'espéranto après avoir appris 3 ou 4 autres langues auparavant et qui se sont rendus compte que c'était...
Oui. Moi, je parlais des parents parce qu'il me semble que s'il y avait une pression, justement, si les parents n'attendaient pas que ça leur vienne du ministère de l'Éducation, mais s'il y avait une pression de la base en disant on souhaiterait que l'on dégage ne serait-ce qu'une heure par semaine pour nos enfants, pour qu'ils puissent apprendre l'espéranto, justement, en leur expliquant la valeur propédeutique de cette langue, je peux rêver, n'est-ce pas?
Mais oui, il faut rêver parce que oui, on n'en est pas là encore, hélas. Si les parents voulaient une heure, ça serait plutôt pour faire de l'anglais. Une heure d'anglais, c'est plus.
Oui, tu crois?
Oui.
Quand nous avons l'occasion de faire signer des pétitions ou de discuter avec des gens, on rencontre pourtant pas mal de parents jeunes qui ont entre 30 et 40 ans, disons, qui disent, mais bien sûr que ça serait la solution, etc. Ils ont l'air convaincus, mais on ne leur apporte pas la possibilité de concrétiser.
Mais pour les convaincre, il faudrait les amener au prochain congrès de SAT, qui est une association nationale mondiale, et qui va se dérouler à Bratislava, en Slovaquie, au mois d'août. Et donc, pour les accompagner, on peut peut-être écouter la dernière chanson, qui est un chant slovaque populaire, qui est...
Oui, le titre, parce que j'ai une petite
annonce. Marisha Kisumin.
Kisumin, c'est-à-dire... attends. Oui, je vois Damien qui veut passer la chanson. Je voudrais faire une petite annonce avant de terminer, parce qu'il est déjà l'heure et nous allons partir. Une annonce de la CNT, qui est la Confédération Nationale du Travail. Il va y avoir une réunion publique le mercredi 26 mai à 20h. Salle municipale de Libourne, le thème sera la précarité. Voilà, eh bien je te remercie beaucoup d'être venu à Aude Radio.
C'était avec grand plaisir, surtout que j'étais disponible.
Et tu reviens quand tu veux nous parler en espéranto, de l'espéranto et de tes voyages aussi, puisque ça serait un sujet, un thème très intéressant aussi.
Pourquoi pas.
Voilà, dis le vidéo.
На бой, как на белый аматин, ценный не уйдет на лето аматин. Чивуть на бой, как на белый аматин, ценный не уйдет на лето аматин.
Мариша, ты сумеешь. Perpetuo al patrin, și eu n-a same pari, prichisui neamari, mari și chisumin. Perpetuo al patrin, și eu n-a same pari, prichisui neamari.
Bata, spanio, bata, spanio, bata, smin, când mi alma te mi chisă snobodin. Bata, spanio, bata, spanio, bata, smin, când mi alma te mi chisă snobodin.
Marișa, chisumi, perpetuo al patrin, și iuna sa me pari, prichisui neavari. Marișa, chisumi, perpetuo al patrin, și iuna sa me pari, prichisui neavari.
Tita spanio, tita spanio, en corte, căi mi este pergamero cum no vet. Tita spanio, tita spanio, en corte, cai mi este sen camero cum no vet.
Marișa, chisumi, perpetuo al patrin, și iuna sa me pari, prichisui neavari. Marișa, chisumi, perpetuo al patrin, și iuna sa me pari, prichisui